On peut commencer. Est-ce qu'il y a des questions d'abord sur la semaine dernière?
Oui, j'ai une question.
Je vous écoute.
Page 306.
306.
Voilà une chose de plus. À quoi sert l'argent? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ah, qu'est-ce que c'est? En fait, ça doit être plus simple que vous ne l'imaginez. Peut-être que vous allez chercher un peu trop loin. Alors, en bas de la page 305, c'est donc à propos de la fortune de Frédéric, fortune relative, hein, puisqu'on sait qu'il y a des fortunes beaucoup plus importantes, mais Deslauriers est... jaloux et mal à l'aise, et il dit, ou il s'exprime intérieurement, il en fait un usage pitoyable, c'est-à-dire un mauvais usage, un peu ridicule dans un sens. C'est un égoïste, et je me moque bien de ses 15 000 francs. Donc c'est l'argent que Frédéric devait prêter pour le journal. Ça veut dire que pour Deslauriers, l'argent qu'il attendait de Frédéric devait d'abord, enfin en priorité, servir à la création d'un journal, c'est-à-dire à un organe d'expression pour préparer sa carrière à lui, Deslauriers, avec derrière lui le financier Frédéric. C'est souvent le cas hein, dans les groupes de presse. Alors pourquoi les avait-il prêtés? C'est une question, hein, Deslauriers n'en connaît pas la réponse. Pour les beaux yeux de Madame Arnoux, elle était sa maîtresse. Deslauriers n'en doutait pas. Voilà une chose de plus, à quoi sert l'argent? Des pensées haineuses l'envahirent. Donc, l'argent qui, pour Deslauriers, doit servir à une cause noble, à une bonne cause, qui est celle de la, peut-être de la révolution, ou en tout cas de l'information, hein, de l'expression, de la liberté d'expression, surtout la sienne, d'ailleurs, a peut-être servi à faire des cadeaux, à entretenir une femme. Donc, pour les beaux yeux de Madame Arnoux. Et bien sûr, ce n'est pas une question, c'est-à-dire que Deslauriers pourrait se poser la question, comme avant, pourquoi les avait-il prêtés? Et il pourrait imaginer différentes choses. Pour payer des dettes, pour entretenir une femme, mais ça serait des questions. Mais Deslauriers se dit ça comme une affirmation. Oui, c'est ça, c'est pour les beaux yeux de Madame Arnoux, et donc c'est détestable. Et donc une chose de plus, à quoi sert l'argent, c'est à entretenir une femme, ce qui pour Deslauriers paraît secondaire, futile, vaniteux, très loin de son ambition, bien sûr. Donc voilà, c'était plus simple que vous ne cherchiez. D'autres questions? Bien. Vous vous souvenez que la semaine dernière, nous nous sommes arrêtés un peu tôt hein, pour le texte que j'avais proposé. On n'a pas eu le temps de finir tout à fait. Et on est resté à peu près sur cette notion. Les caricatures de Louis-Philippe représentées en forme de poire, soit le corps tout entier, comme on a vu ici, soit seulement la tête et sous la forme d'une métamorphose, hein, qui est proposée d'ailleurs avec le titre de métamorphose en poire. Et ce billet donc de Deslauriers qui s'adressait à Frédéric le 21 février 1848 et qui lui disait « La poire est mûre, rendez-vous demain » c'est quoi? C'est au Panthéon, c'est ça? Si je ne me trompe pas, bon. Et donc les journées révolutionnaires de 1848, c'est c'est-à-dire indépendamment des paroles ou bien de l'ambiance que l'on peut, du climat que l'on peut ressentir avant, les événements ont lieu principalement les 22, 23 et 24. Le 25, c'est déjà la composition du gouvernement. Donc, on est passé dans une autre phase de la situation. Donc, après le 24, le 25, composition du gouvernement. Et avant le 22, c'est-à-dire le 21, eh bien, c'est une affaire de climat, de situation, et on ne sait pas ce qui va se passer. D'ailleurs, toute la classe politique et même les révolutionnaires entre guillemets n'imaginaient pas que des choses allaient se passer. Enfin, ils imaginaient des manifestations, c'était la suite des banquets, des protestations contre l'interdiction des banquets, mais on n'imaginait pas un tel soulèvement, une telle organisation. Le mot est un peu... il faut faire attention à l'utilisation du mot, parce que cette organisation n'est pas préparée, pas véritablement. Donc organisation peut-être au sens de organe ou de organisme biologique, hein, quelque chose qui se développe comme ça, naturellement, qui aurait pu ne pas se développer si la température avait été différente ou quelque chose comme cela. D'ailleurs, il y a un politique, je ne sais plus lequel, à propos du 23 février, qui est la journée peut-être la plus importante, qui a dit « Aujourd'hui, il pleut, donc il ne se passera rien. » Un petit peu comme Louis XVI, hein, qui écrit dans son journal le 14 juillet « Aujourd'hui, rien. » 14 juillet 89, Louis XVI a écrit ça dans son journal. Et malheureusement, pour lui, c'était le début de la Révolution. Donc, il y a une impossibilité de voir ce qui va arriver. Si on est dans l'opposition, évidemment, mais même si on est du côté de la protestation, il n'est pas du tout certain de voir ce qui va arriver. Alors, je commencerai peut-être par l'aventure d'un mot, donc... Je n'ai pas de nom, qui encore? Donc aujourd'hui, le mot « peuple » est précisément en relation avec les événements que nous étudions aujourd'hui, à la suite de la semaine dernière. Le mot « peuple », alors cette fois, je ne vous ai pas présenté l'index, hein, le morceau d'index que l'on trouve toujours sur le site Intratexte, mais je vous ai présenté une sélection d'extraits, hein, une sélection de contextes, comme on dit précisément, qui me paraissent les plus intéressants quant à l'utilisation du mot « peuple » par Flaubert dans l'éducation sentimentale. Il y a donc, comme je vous l'ai mis ici, 46 occurrences dans le livre du mot « peuple », comme ça, au singulier. Il existe, je crois, une occurrence du mot « peuple » au pluriel, et puis il existe une occurrence du mot « populaire »,« popularisé ». Bon, c'est finalement très peu par rapport aux possibilités, disons, de cette famille, hein, du mot « peuple ». Je n'ai pas considéré « population », puisque « population » a beaucoup plus rapport au nombre, à l'identité du groupe, plutôt qu'à un sens, disons, abstrait, intellectuel ou politique du mot « peuple ». Alors, le mot « peuple », quand vous le regardez dans le dictionnaire, sur un dictionnaire assez précis, assez développé, c'est un mot qui a beaucoup de sens, qui est employé dans beaucoup de situations ou de contextes. Donc chez Flaubert aussi, on va trouver plusieurs sens différents. Et c'est vrai que les sens que j'ai rassemblés ici ont plutôt une valeur politique, qui est directement en rapport avec les événements. Sur ces 46 occurrences, comme je vous ai mis ici dans la petite parenthèse, il y en a 21 occurrences qui sont dans ce seul premier chapitre de la troisième partie. Alors ça ne fait pas la moitié hein, de 46, mais ça fait quand même beaucoup pour un seul chapitre. Le roman compte 6 chapitres à peu près, donc entre 18 chapitres à peu près, donc un seul chapitre contient presque la moitié. Hein, donc vous voyez, ça fait environ 3-4 fois plus de concentration, hein, de densité, de présence du mot. Alors je vous lis la première. Il s'agit de pèlerins qui exprimaient ses vues sur l'art dans le chapitre 5 de la première partie. Qu'avons-nous besoin de laborieuses bagatelles dont il est impossible de tirer aucun profit, de ces Vénus, par exemple, avec tous vos paysages? Je ne vois pas là d'enseignement pour le peuple. Montrez-nous ces misères, plutôt. Enthousiasmez-nous pour ces sacrifices. Eh, bon Dieu, les sujets ne manquent pas. La ferme, l'atelier, etc., etc. Donc ici, on voit que Pèlerin parle du peuple en relation directe avec l'art, qui est son domaine à lui, et il souhaiterait que l'art soit au service du peuple, c'est-à-dire un art destiné à l'éducation, l'enrichissement, la pédagogie du peuple. C'est donc une conception de l'art dirigée vers la formation des individus, ce qui n'est pas l'idée que nous avons toujours de l'art. Et à cette même époque de Flaubert, se développe une conception dite de l'art pour l'art, c'est-à-dire sans objectif, sans visée, sans destination, qu'elle soit pédagogique, intellectuelle ou politique. Donc Pèlerin souhaite un art d'enseignement pour le peuple, ce qui veut dire de laisser tomber tout un tas de choses auxquelles l'art pourrait rendre service, mais il ne faut servir que le peuple. Alors on pourrait rapprocher ça peut-être de l'art dans les pays socialistes au XXe siècle, hein, c'est-à-dire en URSS, en Chine ou dans d'autres pays, où l'art était entièrement sous la dépendance du pouvoir politique. Parce qu'il fallait contrôler que, en effet, l'art était bien destiné à éduquer le peuple. On pourrait penser à d'autres dérives, comme celle de l'art considéré par le nazisme allemand, par exemple, où tout ce qui était, disons, en dehors de la mission indiquée par les nazis pour l'art, était de l'art dégénéré. Et donc il y a eu des expositions d'art dégénéré pour dévaloriser tous les artistes passés ou présents à ce moment de, disons, de construction, hein, d'une vision du monde par les nazis. Deuxième citation, il se voyait, bon, point de suspension, il y a quelques lignes ici, puis à la tribune de la Chambre, bien sûr la Chambre des députés, orateur qui porte sur ses lèvres le salut de tout un peuple, noyant ses adversaires sous ses prosopopées, les écrasant d'une riposte avec des foudres et des intonations musicales dans la voix, ironique, pathétique, emportée, sublime. C'est Frédéric qui imagine son rôle politique comme, évidemment, porteur du salut de tout un peuple. Alors le salut, c'est un mot un peu catholique, quand même, qui veut dire l'âme sauvée de ses péchés sur terre grâce à une rédemption qui lui permet d'être une âme pure au paradis, etc. Bon, ici bien sûr le salut est dans un sens plus prosaïque, plus terre à terre, le salut sur terre, qui est une vision simplement du bonheur en quelque sorte. Hein. Et donc le mot salut apparaît comme une sorte de hyperbole du mot bonheur. Le mot bonheur, bon, le bonheur sur terre, voilà. Et le salut, c'est normalement quelque chose de l'autre monde, hein, du paradis. Donc si on remplace bonheur par salut, on donne à ce mot une valeur supérieure à ce qu'il désigne. C'est bien ce qu'on appelle hyperbole en rhétorique, c'est-à-dire comme figure de style, hein, l'utilisation d'un mot plus fort que ce que l'on veut désigner. Donc de la part de Frédéric, c'est tout à fait normal, il utilise le mot « peuple » dans le sens de sa vision personnelle, de la même façon que Pellerin. Troisième citation, maintenant c'est Deslauriers. « Ah, c'était plus beau quand Camille Desmoulins, debout là-bas sur une table, poussait le peuple à la Bastille. On vivait dans ce temps-là. On pouvait s'affirmer, prouver sa force. De simples avocats commandaient à des généraux, des va-nu-pieds battaient les rois, tandis qu'à présent. » Alors, troisième personnage, hein, qui voit ses rêves, lui aussi, avec le peuple ou au service du peuple, et ici, de la part de Deslauriers, une note de regret. Et on voit déjà ce qu'on disait tout à l'heure encore, ou la semaine dernière, sur Deslauriers, c'est-à-dire une personne un peu aigrie dans sa façon de vivre, parce qu'il ne réussit pas ce qu'il aurait souhaité réussir. Avocat brillant, qui devient politique, influent, puissant, etc. Et ça ne marche pas du tout. Et quand est-ce que cela a bien marché? Eh bien, la révolution de 89, avec des gens comme Camille Desmoulins, et comme ça, la parole de l'orateur, et tout le peuple va se déplacer, donc pousser le peuple à la Bastille. Et il faut imaginer, le peuple, c'est des dizaines ou des centaines de milliers de personnes, et il y aurait un individu, Camille Desmoulins, qui pousse le peuple comme ça à la Bastille. Alors c'est une métaphore de la puissance de la parole. L'orateur, avec une parole extraordinaire, qui fait marcher un peuple vers la révolution. Avec l'idée un petit peu fausse, hein, de Deslauriers, que un homme commande la révolution. Et là, c'est un peu les illusions de Deslauriers, et on le verra justement avec 1848, ce n'est pas un homme qui pousse le peuple, c'est un organisme très compliqué qui se produit, qui se développe à un moment, on y reviendra. Donc l'idée du peuple comme un nombre qui peut être, disons, dirigé, orienté facilement par la parole. C'est bien le rêve de Deslauriers. Encore Sénécal, rien de tout cela ne serait survenu si on protégeait mieux l'agriculture, si tout n'était pas livré à la concurrence, à l'anarchie, à la déplorable maxime du laisser-faire, laisser-aller. Voilà comment se constituait la féodalité de l'argent, pire que l'autre. Mais qu'on y prenne garde, le peuple, à la fin, se lassera et pourrait faire payer ses souffrances aux proscripteurs ou par le pilleur, aux détenteurs du capital, pardon, soit par de sanglantes proscriptions ou par le pillage de leurs hôtels. Alors, c'est une parole de Sénécal, dans le deuxième chapitre de la deuxième partie, c'est-à-dire assez longtemps avant la Révolution, hein, tout de même. Et on voit ici, dans cette expression, l'utilisation d'un verbe au futur. Le peuple, à la fin, se lassera. Donc c'est une sorte d'annonce, de prévision, et Sénécal apparaît comme, à ce moment-là, hein, du roman, apparaît comme un républicain un peu austère, révolutionnaire pourrait ressembler à un communiste des années 1920, hein, en France à peu près, avec une sorte d'autoritarisme dans la direction du peuple. Mais tout de même, il semblerait que pour Sénécal, dans cette façon de s'exprimer, c'est bien le peuple qui, de lui-même, s'exprime. Il n'est pas dirigé, il n'est pas poussé, il n'est pas télécommandé par quelqu'un d'autre. Le peuple, à la fin, se lassera. Et pourquoi le peuple se lassera ? Parce qu'il y a sur lui trop de pression, de crimes, d'injustices, et ce sera donc une sorte de réaction naturelle du peuple qui bascule dans l'action après avoir beaucoup supporté. Alors je crois que c'est un désir, un espoir de la part de Sénécal qui n'est sans doute pas partagé par les autres. Ni Frédéric, ni Deslauriers ne souhaitent que le peuple marche dans les rues et fasse la révolution. Ils sont quand même ils sont quand même tout à fait du côté bourgeois, du côté de l'argent, dans un sens, même si Deslauriers en manque, ils sont du côté de l'argent et ils ne souhaitent pas que le peuple domine. Donc une vraie démocratie, dans ce sens de pouvoir du peuple, hein, étymologique, fait peur à des gens comme Deslauriers ou Frédéric. Mais pas à Sénécal. Sénécal s'estime peut-être faisant partie du peuple et donc souhaitant justement être de ces lendemains qui chantent, hein, comme l'expression le disait, aux grandes périodes du communisme. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression en français. Les lendemains chantent. Alors c'est une belle métaphore, hein, avec peut-être ce qu'on avait vu l'autre jour, Hypallage, parce qu'il manque un troisième terme. Ce ne sont pas les lendemains qui chantent, c'est le peuple au lendemain de la révolution qui chante. Et donc on contracte tout ça, on fait disparaître un terme et il nous reste lendemain qui chante. Alors ça semble être une métaphore, mais c'est une métaphore par hypallage. Bon, juste comme détail comme ça, pour voir comment les figures se construisent. Alors je ne sais pas qui est l'auteur de cette expression. On pourrait chercher, mais c'est une expression du XXe siècle. Voilà. Alors ces quatre expressions utilisant le mot peuple correspondent à quatre personnages et à quatre utilisations, à quatre visions différentes du peuple, hein, qu'il s'agisse de Pellerin, de Frédéric, de Deslauriers, de Sénécal. Chacun a une idée du peuple et la met en scène, hein, en quelque sorte, dans des scénarios de parole. La citation suivante, c'est au troisième chapitre de la deuxième partie, c'est Deslauriers, et elle est plus longue, mais on peut s'intéresser à la fin seulement. Cette question que Deslauriers se pose, mais en quoi la souveraineté du peuple serait-elle plus sacrée que le droit divin ? L'un et l'autre sont deux fictions. Alors, la question est très 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 intéressante, parce que si l'on est croyant, catholique ou autre peut-être, cette croyance correspond à l'idée que les choses auxquelles on croit existent vraiment. Si Dieu existe vraiment, c'est vraiment lui qui dirige le monde. Donc, pourquoi la souveraineté du peuple serait déterminante, serait importante? Et donc, on voit que Deslauriers hésite, il ne semble pas très catholique, au sens réel, il n'a pas l'air d'être très croyant, pratiquant, en tout cas pas du tout, Et cependant, il reste attaché, disons, à la culture qu'on appelle la culture judéo-chrétienne, qui fait que vaguement croire en Dieu, c'est vaguement croire à un ordre, une organisation de la société. Et alors, le peuple, pourquoi le peuple devrait-il dominer? Bon, et la question est, je crois, très, très valable en tant que question. En même temps, bien sûr, c'est une question qui n'est pas démocratique, hein, au sens politique. C'est, au contraire, un frein. Et la réponse que Delaurier donne me paraît être encore plus intéressante que la question. Et j'ai l'impression que c'est la réponse de Flaubert. Cette question, tout le monde peut se la poser. En quoi la souveraineté du peuple serait-elle plus sacrée que le droit divin? Et nous voyons la souveraineté du peuple, le droit divin, comme deux choses réelles dans notre monde. Deux choses qui existent réellement, ou qui sont possibles. Et la réponse de Delaurier, peut-être de Flaubert, c'est « l'un et l'autre sont deux fictions ». Alors ça, c'est une réponse extraordinaire qui me laisse toujours perplexe, étonné. En effet, la souveraineté du peuple considérée comme une fiction, et oui, parce que la réalité de la souveraineté du peuple, c'est quand même difficile à obtenir, et le droit divin, eh bien, si Dieu était vraiment le maître sur terre, je ne suis pas certain que nous devrions assister à tous les crimes, à tous les malheurs qui arrivent en permanence. Donc, ce n'est peut-être qu'une fiction. Alors, fiction de la souveraineté du peuple, fiction du droit divin, où est la réalité? Où est la vérité du monde? Derrière des fictions. Peut-être inaccessible derrière des fictions. Et là, on est presque déjà en plein, en plein Derrida, hein, par exemple, en disant que toute la réalité du monde n'est en quelque sorte que derrière du langage. Et elle est presque inaccessible sans le langage qui se met entre les deux. Donc cette vision de Flaubert est vraiment superbe. Je passe les autres citations. Vous pourrez en faire vous-même le commentaire assez facilement. Jusqu'à la dernière que je vous ai indiquée, donc en bas. Qui sait ? Le progrès peut-être n'est réalisable que par une aristocratie ou par un homme. L'initiative vient toujours d'en haut. Le peuple est mineur, quoi qu'on prétende. Donc là, c'est une vision en quelque sorte définitive de Frédéric, qui pense que le peuple n'est pas capable de se déterminer intelligemment, n'est pas capable de se gouverner complètement, et que, au contraire, il a besoin de soit une aristocratie, soit un homme. Alors en fait, on a les trois systèmes de gouvernement qui sont déjà connus en France. La royauté, c'est une aristocratie. Un homme, c'est l'empereur, c'est le tyran, c'est le dictateur. Et le peuple lui-même, la démocratie, ben, c'est pas possible parce que le peuple est mineur. Donc, nous voilà en quelque sorte pris entre différents sens du mot, et je crois que Flaubert a extrêmement bien rempli sa mission de romancier en n'utilisant pas toujours le même sens du mot, qui serait celui de Flaubert, par exemple. Il y a beaucoup de romanciers qui utilisent les mots dans leur sens personnel, et tout le long du livre, c'est le même sens, à peu près. Et Flaubert est plutôt comme une sorte de lexicographe qui connaît bien tous les sens du mot et qui les met en scène dans la bouche de différents personnages, un peu comme un dictionnaire vivant pour nous aider à les comprendre. Donc lexicographe, lexicographie, connaissance ou expression du sens des mots, précisément. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, je vous ai proposé les pages 349 à 72, c'est-à-dire d'abord les deux pages qui finissent la deuxième partie. Et donc, je vais en profiter pour remonter un petit peu plus haut en résumant l'action, comme on a vu un peu déjà la semaine dernière. Alors ici, nous sommes pour donc le rendez-vous de Frédéric avec Madame Arnoux, rendez-vous qu'il a réussi à obtenir. Pour lui, c'est en quelque sorte l'aboutissement de tout ce qu'il a commencé depuis qu'il a rencontré Madame Arnoux. Il arrive enfin à ce rendez-vous qu'il a bien préparé avec un petit appartement qu'on pourrait appeler garçonnière, où il va pouvoir... un petit peu par hasard, entre guillemets, pousser Madame Arnoux pour essayer de coucher avec elle. C'est son objectif. Et ce jour-là, malheureusement, ça sera le 22 février 1848, premier jour des événements qui seront ensuite connus et nommés sous le nom de Révolution de 1848, de journée de février 1848. Et ce jour-là, malheureusement, il y a donc une simultanéité d'événements, c'est-à-dire différents événements qui se produisent en même temps et qui sont d'une part la préparation par Frédéric, très détaillée, parfaite, impeccable, et il attend, et il attend, et il attend. Et il attend. Chez Madame Arnoux, un événement imprévu, l'enfant est malade, et à cause de cette maladie de l'enfant, je crois que tout le monde le comprend très bien, Madame Arnoux a autre chose en tête que Frédéric. C'est donc une bonne mère qui se soucie grandement de son fils et qui exprime d'ailleurs son enfant malade, elle lui dit « Ah, mon amour, mon chéri !» Bon, c'est-à-dire les paroles... Les paroles, les mêmes paroles qu'elle aurait peut-être pu dire à Frédéric, elle les dit à son enfant. Et d'un côté comme de l'autre, c'est tout à fait justifié. Donc, en disant ces paroles à son enfant, l'enfant prend en quelque sorte la place de Frédéric, et Frédéric se retrouve derrière, faire la queue, et il est caché, complètement, on dit oblitéré, c'est-à-dire caché, masqué par l'importance de l'autre personnage, l'enfant malade. Donc, du point de vue de Madame Arnoux, le fait de ne pas essayer de prévenir Frédéric qu'elle sera en retard ou qu'elle ne pourra pas venir est tout à fait compréhensible. Elle a autre chose en tête. Et l'idée même de Frédéric ne lui vient pas, à cause de l'angoisse, de l'inquiétude pour son enfant malade. Donc Flaubert nous a détaillé, nous a concentré l'expression de cette angoisse de Madame Arnoux de façon justement séparée, et il a évité ce qu'il avait fait par exemple dans Madame Bovary, entre les comices agricoles et la séduction dans la salle de la mairie, avec alternance de paragraphes comme ça, en haut, en bas, en haut, en bas, ce qui se passe ici, ce qui nous donne, un peu comme au cinéma, un montage, en quelque sorte, où on comprend bien que ça se passe en même temps. Bon, Flaubert n'a pas choisi cette option de simultanéité ou de alternance très rapide comme la simultanéité, il a choisi de séparer. Nous avons donc toute la partie de Frédéric qui attend sans savoir. Et d'ailleurs, le lecteur se retrouve dans la même situation que Frédéric, c'est-à-dire incapable de savoir pourquoi Madame Arnoux ne vient pas. Elle a renoncé, elle ne l'aime plus, elle a un accident, elle est coincée dans une barricade. On peut tout imaginer, on ne le saura pas. On ne le saura qu'après, lorsque Flaubert aura décidé de raconter cette partie. Donc nous sommes dans le côté de Frédéric, avec l'angoisse de Frédéric, pour bien le comprendre. Et lorsque Frédéric a complètement perdu sa partie et son espoir, nous passons du côté de Madame Bovary et de Madame Arnoux, et nous sommes complètement avec elle dans le soin de son enfant jusqu'au moment où ça va mieux. Bon, et ça se passe en même temps. Et il y a encore autre chose qui se passe en même temps, et bien c'est la journée insurrectionnelle du 22 février. Donc, insurrection. Le peuple descend dans la rue, construit des barricades et s'oppose à la force publique représentée par la police, l'armée, les gardes nationales, les hommes politiques et tout en haut, le roi. Le peuple s'oppose globalement à l'ensemble de ces organes du pouvoir. Alors j'ai trouvé dans la banque de textes Gallica, dont je vous ai déjà beaucoup parlé, un texte très intéressant. Il y a beaucoup de textes sur la révolution de 1848, mais j'ai trouvé un témoignage en quelque sorte d'historien qui a été écrit en 1849. C'est-à-dire, c'est encore très chaud tout ça, c'est dans l'action et sans doute dans la mémoire de toutes les personnes, soit celui qui écrit, soit ceux qui lisent. Ce qui veut dire aussi qu'il n'y a pas de recul, comme les historiens aiment avoir pour discuter, comprendre les phénomènes, mais au contraire, il y a beaucoup plus de souvenirs, de mémoire de ce qui s'est réellement passé. Donc plus de réalité, moins d'interprétations, ou alors des interprétations plus personnelles que historiques. Alors ce livre que vous pouvez retrouver dans Gallica et qui est très intéressant s'appelle « Histoire de la Révolution » de 1848. Bon, le titre est très clair. Écrit par Léonard Gallois. Voilà, avec deux L. Et publié en 1851. C'est aussi l'année du coup d'État de Napoléon III, et on verra ça, bien sûr, dans quelques temps, la semaine prochaine. Et donc, écrit en 49. Alors, c'est une position intéressante, parce que après 48, déjà 48, il y a plusieurs parties. Il y a février, il y a mai, il y a juin. Ça fait des choses très différentes, surtout entre février et juin. Ah, bon, on en reparlera. Alors, voilà ce que écrit Léonard Gallois au sujet de cette journée du 22 et du 23, à peu près. Et on peut voir que, d'une part, on retrouve la même ambiance que chez Flaubert, on retrouve certains détails exactement les mêmes, et on ne peut pas savoir à ce point ici, peut-être des spécialistes de Flaubert pourrait nous dire, mais on ne peut pas savoir si Flaubert a lu, par exemple, Léonard Gallois, ou bien si ce sont ses informations personnelles. Alors quand même, on sait que Flaubert est allé avec son ami à Paris pour voir les événements. Donc, il a assisté comme ça à une partie. Ça ressemble un peu d'ailleurs à la scène de Frédéric hein, dans la rue, le 24, qui regarde tout ce qui se passe partout. Bon, Flaubert a dû être un peu comme ça. Et après, il est parti pour son grand voyage en Orient, en Égypte, etc., l'année suivante, en 49. Bon, il faut dire qu'entre-temps, il y a son ami très cher qui est mort, juste quelques semaines après, en avril 48, c'est ça. Et donc Flaubert était très abattu, et il s'est moins intéressé à la situation politique, et il est parti en voyage. Bon, on peut tout à fait le comprendre. Alors, voilà ce qu'écrit Léonard Gallois. J'ai sorti deux petits passages de son livre de 400 pages. Donc, si vous voulez voir ça sur Gallica, c'est vraiment très intéressant. Les troupes ayant passé la nuit, donc c'est la nuit du 22 au 23, je crois. Bon. Les troupes ayant passé la nuit au bivouac, c'est-à-dire dans des tentes, par un temps très désagréable, il pleuvait, aussi dans le texte de Flaubert, se trouvaient nécessairement mal disposés dès le matin. Obligés d'ailleurs de rester exposés à l'intempérie, c'est-à-dire au mauvais temps, de cette matinée. Les soldats de la ligne, c'est-à-dire les soldats de l'armée régulière qui forment des lignes pour se battre contre une autre armée, les soldats de la ligne commençaient à murmurer du service doublement pénible, c'est-à-dire à se plaindre, qu'exigeait d'eux le gouvernement auquel ils étaient individuellement peu dévoués. Donc les soldats, étant plutôt des gens du peuple, ne sont pas spécialement dévoués, fidèles au gouvernement, et le gouvernement leur demande beaucoup. Donc ils sont un petit peu réticents. Et ça explique que dans les rues de Paris, il y aura beaucoup de fraternisation. Et c'est très important parce que c'est l'élément principal de ces journées. Sans la fraternisation, il y aurait eu des massacres et l'armée et le roi auraient dominé. Peut-être pas facilement, mais ils y seraient sans doute arrivés. Mais des Parisiens, des gens du peuple, sans armes dans les rues, parce que c'est pas préparé, donc ils sont pas armés. Ils font des barricades avec n'importe quoi, mais ils sont sans armes. Et quand les soldats arrivent, il leur dit « Vive la ligne !» c'est-à-dire « On vous aime !» Alors bon, imaginez, vous êtes soldat, vous êtes du peuple, et il y a l'officier qui est un aristocrate, il vous demande de tirer sur d'autres. Hésitation. Et une seconde d'hésitation, c'est une autre chance pour le peuple de crier « Avec nous !» etc. Et donc petit à petit, l'ambiance change et dans beaucoup de quartiers de Paris, beaucoup de barricades, il y a eu comme ça des fraternisations qui ont petit à petit arrêté, disons, l'action de l'armée. À la page 21, toujours de ce Léonard Gallois, à propos de l'expression « Vive la ligne !» qu'on va trouver ici, les gens criaient dans la rue « Vive la ligne !» également « Vive la réforme !» ce qui amusera beaucoup Frédéric et Rosanette. « Pendant que ces escarmouches meurtrières, c'est-à-dire il y a quand même des tirs, des bagarres entre des insurgés, insurrections, insurgés, et les soldats. Donc de temps en temps, on se tire dessus et il y a des morts, et il y a du sang. Ça s'appelle une escarmouche. Escarmouche, c'est une petite bagarre qui dure quelques minutes et ça n'est pas une grande bataille. C'est petit, localisé. Pendant que ces escarmouches meurtrières avaient lieu aux environs de la rue Montorgueil, des troupes nombreuses, à la tête desquelles marchait un général, se présentaient au bas de la rue Poissonnière, toujours du côté des grands boulevards, pour balayer les rues adjacentes sur les côtés. Mais la foule, qui était compacte en cet endroit du boulevard, cria si fort « Vive la ligne, vive le général !» que les soldats se sentirent paralysés et s'arrêtèrent. partout où des corps d'infanterie passaient, c'est-à-dire des groupes d'infanterie, des groupes de soldats à pied, ils étaient accueillis par les mêmes cris, par les mêmes marques de confiance. Et partout, des fraternisations avaient lieu entre ces soldats et le peuple. Les cavaliers, seuls, furent moins disposés à fraterniser avec les citoyens. Les cuirassiers, les dragons, les chasseurs de Vincennes se montrèrent, ce jour-là, aussi acharnés contre la population que l'avaient été la veille les municipaux à cheval et à pied. Donc là, il s'agit de ceux qui ne fraternisent pas, qui sont à cheval ou qui sont de ce qu'on appelle la garnison de Vincennes, fort militaire, où on a fait rentrer que des militaires qui ne sont pas du côté du peuple, qui ont déjà exprimé leurs opinions. Heureusement, il fut impossible à cette cavalerie de s'engager dans les rues où paraissait établi le centre de l'insurrection, qui ne fut dès lors combattue que par des municipaux et par quelques détachements de la ligne. Les municipaux, c'est la police municipale de Paris. Donc, c'est pas la même chose que l'armée. Très importante, cette dernière phrase. On n'a pas pu atteindre des groupes de peuples concentrés parce qu'ils sont dans des quartiers où les rues sont trop petites, trop étroites. Eh bien, ça sera la raison principale, et pas esthétique, de Napoléon III pour demander à Haussmann de percer des grandes avenues dans Paris, qui font le Paris que tout le monde aime aujourd'hui, et esthétiquement très intéressant, mais qui avait pour fonction première d'empêcher que des grandes masses de peuple se regroupent et s'enferment dans des quartiers de petites rues où l'armée ne pouvait pas les atteindre. Bien sûr, c'était avant d'avoir des grosses bombes, comme on a aujourd'hui, et qui ont pu servir malheureusement tellement au XXe siècle. Donc vous voyez, une conception de la guerre, de l'intervention, un peu différente. Voilà. Et donc beaucoup d'autres pages de ce Léonard Gallois font état de cette ambiance, de ces événements, qui correspondent tout à fait à l'ambiance de Flaubert. En bas de la page 349, donc juste après son amour disparu, il s'en alla au hasard par les rues. Des hommes des faubourgs passaient, armés de fusils, de vieux sabres, quelques-uns portant des bonnets rouges, et tous chantant la Marseillaise ou les Girondins. Ça et là, un garde national se hâtait pour rejoindre sa mairie. Des tambours au loin résonnaient. On se battait à la porte Saint-Martin. Il y avait dans l'air quelque chose de gaillard et de belliqueux. Frédéric marchait toujours. L'agitation de la grande ville le rendait gai. À la hauteur de Frascati, il aperçut les fenêtres de la maréchale. Une idée folle lui vint. Une réaction de jeunesse. Il traversa le boulevard. On fermait la porte cochère, et Delphine, la femme de chambre, en train d'écrire dessus avec un charbon « arme donnée », lui dit vivement « Ah, madame est dans un bel état. Elle a renvoyé ce matin son groom qui l'insultait. Elle croit qu'on va piller tout. Elle crève de peur, d'autant plus que monsieur est parti. Quel monsieur ? Le prince !» Frédéric entra dans le boudoir. La maréchale parut, en jupon, les cheveux sur le dos, bouleversée. « Ah, merci, tu viens me sauver. C'est la seconde fois. Tu n'en demandes jamais le prix, toi. »« Mille pardons !» dit Frédéric en lui saisissant la taille dans les deux mains. « Comment ? Que fais-tu ? » balbutia la maréchale, à la fois surprise et égayée par ses manières. Il répondit « Je suis la mode, je me réforme. » Elle se laissa renverser sur le divan et continuait à rire sous ses baisers. Ils passèrent l'après-midi à regarder, de leurs fenêtres, le peuple dans la rue. Puis il l'emmena dîner aux trois frères provençaux. Le repas fut long, délicat. Ils s'en revinrent à pied, faute de voiture. À la nouvelle d'un changement de ministère, Paris avait changé. Tout le monde était en joie. des promeneurs circulaient et des lampions à chaque étage faisaient une clarté comme en plein jour. Les soldats regagnaient lentement leur caserne, harassés, l'air triste. On les saluait en criant « Vive la ligne !» Ils continuaient sans répondre. Dans la garde nationale, au contraire, les officiers, rouges d'enthousiasme, brandissaient leurs sabres en vociférant « Vive la réforme !» Et ce mot-là, chaque fois, faisait rire les deux amants. Frédéric blaguait, était très gai, etc. Après, on verra après. Donc, on a des éléments de réalité, hein, qu'on peut appeler des effets de réalité, comme les paroles citées, vive la réforme, vive la ligne, et également le message écrit sur la porte en bas dans la rue de Rosanette, arme donnée. Alors j'ai recherché ça aussi, et en effet, on a écrit sur les portes arme donnée pour éviter que le peuple entre et pille dans les maisons à la recherche d'armes, d'armes ou d'autres choses, hein, quand on commence à fouiller dans une maison, on trouve n'importe quoi. Et donc, on écrivait sur les portes « armes données ». Et des témoignages précisent qu'en effet, on écrivait cela sur les portes. Et cela s'est reproduit, je crois, en juin, les journées de juin 48, et également en 1851, dans les journées qui précèdent le coup d'État, lorsqu'il y a eu aussi des révoltes. Donc, arme donnée est tout à fait une citation réelle de ce qu'on écrivait sur les portes. C'est-à-dire, bon, on a donné nos armes, ne venez pas en chercher, on n'en a pas. Donc, bah, on peut estimer être tranquille. Alors, bien sûr, vous avez sans doute remarqué que Frédéric avait exprimé la réalité du temps, c'est-à-dire, je me réforme. Et dans la rue, le cri « Vive la réforme !» Alors, c'est la suite de ce que je disais la semaine dernière à propos du fait que Madame Arnoux n'était peut-être pas que Madame Arnoux, qu'elle était peut-être une sorte de représentation du système de gouvernement aristocratique, royal, jusque-là, désirable, aimé, avec confiance, et qui, d'un seul coup, se trouve renversé sous la forme de Rosanette que l'on couche sur le divan. Cette réforme est donc à l'intérieur de Frédéric et elle accompagne la réforme historique qui est la Révolution à ce moment-là. On notera d'ailleurs que l'empêchement de Madame Arnoux est un véritable empêchement. C'est-à-dire qu'elle ne peut vraiment pas venir au rendez-vous de Frédéric. Tandis que l'insurrection qui a commencé n'est pas un empêchement pour Frédéric, ni pour Madame Arnoux, ni pour Rosanette. C'est-à-dire que la maladie de l'enfant, c'est quand même un problème dans la filiation, dans la transmission. C'est quelque chose de héréditaire, qui est dans l'ordre, tout de même, de la vision aristocratique du pouvoir et du gouvernement. Il faut un fils pour continuer la génération lorsqu'on fait partie de la classe dominante. Donc, la maladie de l'enfant est un vrai empêchement matériel pour Madame Arnoux, historique du point de vue d'un roi. Un roi qui n'a pas d'enfant, c'est un système fini. Alors il faut appeler une autre branche, c'est très compliqué, et ça ne marche pas très bien. Hein, voir au Japon, de la même façon, les successions impériales, lorsqu'il faut changer de branche, ou passer par une femme. Oh, mon Dieu, quelle horreur! Et ça se reproduit dans beaucoup de pays. De l'autre côté, l'insurrection populaire n'est pas un empêchement pour Frédéric pour attendre Madame Arnoux. Il regarde un petit peu comme ça. Enfin, ça n'empêche rien. Et si son enfant n'était pas malade, Madame Arnoux pouvait venir. Bon. Et même, l'insurrection favorise grandement Frédéric, puisque il est finalement contraint d'abandonner un système, une idée de l'amour, et il va vers une autre, beaucoup plus simple, beaucoup plus directe. Il n'y a pas de relation de haut en bas, comme avec Madame Arnoux, hein, qui est un objet de beauté admiré, etc. Ça aussi, c'est vertical. Hein, c'est comme la hiérarchie, c'est comme l'aristocratie, c'est vertical. Mais Rosanette, c'est horizontal. D'abord, on est face à face. Elle est du peuple comme lui. Bon, Frédéric se considère même un petit peu au-dessus, hein, de Rosanette. Mais elle a beaucoup de connaissances, elle a un réseau, etc. Bon, hein, comme ça. Et, bien sûr, il la couche. Donc là, c'est très, très clair, hein, bien entendu. Et bah, c'est facile, il n'y a rien qui empêche ça. Donc, voyez comment l'individuel et le collectif se trouvent tout à fait en phase, hein, superposables dans, l'histoire, disons, l'intrigue de Flaubert. En même temps, il faut penser à autre chose, c'est l'impréparation, la non-préparation des choses. Paradoxalement, ce qui est bien préparé ne marche pas, dans ce cas-là, hein, pas tout le temps, mais dans ce cas-là, ce qui a été bien préparé ne marche pas, c'est le rendez-vous avec Madame Arnoux, et ce qui n'a pas du tout été préparé marche très bien. C'est la valeur de l'improvisation ou de l'impromptu. Alors, je ne sais pas très bien si on peut faire une différence entre ces deux mots. Peut-être tout de même, impromptu, donc ça arrive comme ça d'un seul coup, et on en profite directement, ou on n'en profite pas. Ah oui, il manquait un P. La semaine dernière, il manquait un R, hein, c'est ça? Aujourd'hui, c'est un P. Merci. Voilà. Il vient donc de prompt, hein, P-R-O-M-P-T, prompt, qui veut dire rapide, soudain. Donc l'impromptu, c'est ce qui arrive soudainement et dont on peut profiter ou ne pas profiter, évidemment. Mais je crois que plus souvent, on utilise le mot impromptu dans un sens assez positif. Ce serait à vérifier. Et puis, improvisation, c'est l'idée, bien sûr, que l'on fait quelque chose sans l'avoir préparé, mais qui suppose quand même, pour l'improvisation, un certain talent. Un talent, un métier, une connaissance qui existe déjà et que l'on peut mettre en œuvre comme ça. Donc, par exemple, je vous parle du texte de façon presque improvisée, c'est-à-dire je vous lis pas mon papier, mais ce n'est pas impromptu. Je ne suis pas arrivé ce matin par hasard et entré dans la classe. Vous voulez quoi? Un cours sur l'éducation générale? Ok, on y va. Ça serait impromptu. Et improvisation, bon, ça fait quand même un moment que je connais, que je fais le travail, etc. Donc, il y a une partie d'improvisation. Et vous voyez, pour un acteur, pour d'autres artistes, un peintre, un musicien, il y a la possibilité de faire de l'improvisation, mais ça ne veut pas dire de l'impromptu. Le jazz, hein, est presque entièrement construit sur la notion d'improvisation, c'est-à-dire le métier, la connaissance des instruments, des rythmes, d'autres morceaux, et la possibilité de faire quelque chose là, tout de suite. Donc, impromptu ou improvisation, qui prend ici, dans cet épisode, une très grande valeur. Et une valeur, encore une fois, double. Individuelle pour Frédéric, vous avez compris, hein, avec Rosanette, et collective, puisque cette insurrection 22, 23, 24 février, n'est pas organisé, n'est pas planifié, n'a pas de groupe politique derrière qui a envoyé des commissaires politiques, des gens en mission hein, pour soulever le peuple, comme on l'a connu à d'autres moments. Par exemple, la Saint-Barthélemy, hein, ce massacre de protestants dans Paris ou ailleurs, c'est quelque chose qui est bien organisé, qui n'arrive pas par hasard, c'est pas du tout une improvisation. Ceci dit, c'est pas non plus une insurrection, hein, tout à fait autre chose. Mais c'est organisé. La révolution de 1789, il faudrait s'interroger, mais il y a quand même beaucoup de préparation par des clubs, des discussions, des plans. Bon, c'est vrai que le 14 juillet, ben, c'était pas prévu. Hein. Donc il y a un phénomène d'association d'éléments. Oui, donc on peut comme ça, en quelque sorte, finir, disons, de considérer ce parallèle entre femmes, d'un côté, donc Madame Arnoux ou Rosanette, et système de gouvernement, le royaume ou la république. Alors, on ne peut pas dire simplement que Madame Arnoux représente la royauté ou que Rosanette représente la république. Mais c'est une sorte de parallélisme entre les deux choses qui vont ensemble, hein, qui s'accompagnent l'une l'autre. Ce n'est pas une égalité stricte, hein. Que ce soit clair, évidemment. À propos de ces journées de 48, donc la plupart des témoins historiques sont d'accord, ça n'était pas préparé. Et c'est plutôt le résultat presque de hasard, encore une fois, de nombreuses actions qui ont été favorables au peuple, au moins pendant ces journées, hein, ces journées-là, et qui ont été défavorables au système en place, c'est-à-dire le roi Louis-Philippe et le Premier ministre, si vous voulez, qui est Guizot. Guizot était très impopulaire depuis très longtemps, et c'est sans doute une erreur du roi de ne pas avoir entendu cette impopularité, de ne pas avoir remplacé son ministre plus tôt. S'il l'avait fait, peut-être quelques jours, quelques semaines avant, ces journées n'auraient pas eu lieu, ou bien ça aurait été différent, sans doute. Donc c'est quand même une pression, une accumulation qui arrive à maturité. Maturité, c'est la poire est mûre, c'est-à-dire l'idée de le moment historique. Alors le moment historique, les Grecs l'ont appelé aussi le kairos. Le kairos, c'est le moment où ce qui paraissait impossible juste avant ou juste après peut arriver. C'est le bon moment pour faire quelque chose. Alors peut-être pour chacun, on peut avoir ces petits kairos tous les jours, de bons moments pour faire quelque chose, mais on va l'utiliser plutôt dans un sens historique, général, de situation favorable, de façon un peu hasardeuse, un peu aléatoire, favorable à un événement, à un changement. Alors, comme j'ai dit aussi, il y avait un climat très important sur ces journées. Et par exemple, un des éléments de ce climat se trouve indiqué par Flaubert deux fois. Une fois ici, au tout début de ce que je viens de lire, en bas de la page 349, tous chantant la Marseillaise ou les Girondins. La Marseillaise, tout le monde la connaît, c'est le chant national. Et les Girondins, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un autre chant, mais qui ne date pas de la Révolution. Et c'est un chant, en quelque sorte, très récent, écrit par Alexandre Dumas pour une pièce, pour un roman, pour une pièce, bon, pour une pièce, on va dire, qui est parue, qui a été jouée en 1847 et qui était déjà annoncée à la page 328, lors d'un dîner, au milieu de la page 328, c'est Hussonnet. Hussonnet qui rentre et il venait de voir au théâtre de Dumas le chevalier de Maison Rouge et trouvait ça embêtant. Un jugement pareil étonna les démocrates. Ce drame, par ses tendances, ses décors plutôt, caressant leur passion, ils protestèrent. Sénécal, pour en finir, demanda si la pièce servait la démocratie. Oui, peut-être, mais c'est d'un style. Eh bien, elle est bonne. Alors, qu'est-ce que le style? C'est l'idée. Et etc., etc. Donc, ici, dans ce dîner, Hussonnet est allé voir la pièce de Dumas, Chevalier de Maison Rouge, c'est le titre de la pièce d'Alexandre Dumas, qui est l'adaptation d'un roman du même titre, Le Chevalier de Maison Rouge, paru en 1846. Donc, 46, le roman, 47, la pièce. Dans cette pièce, qu'est-ce qui se passe dans cette pièce? Eh bien, vous avez là aussi sur Internet un site de Dumas qui vous permet de lire toutes les œuvres de Dumas, ou presque, un très très grand nombre, directement en ligne, et dont je vous donne l'adresse sous forme simple. Voilà, avec ça, ça suffit. Encore une fois, il manque une lettre. Ça doit être une maladie, ça. D'oublier des lettres. Je me surveille. Donc, Dumas comme Dumas, et père comme Dumas père, je fais Dumas fils aussi. Voilà. Et à partir de cette adresse, vous aurez dans tout l'ensemble du site des fiches, des biographies et les œuvres elles-mêmes que vous pouvez lire chapitre par chapitre, dont le Chevalier de Maison Rouge. Dans ce Chevalier de Maison Rouge, il y a un personnage qui s'appelle Dixmer et il y a le Chevalier de Maison Rouge, son beau-frère. Il complote, il forme un complot, pour sauver la reine Marie-Antoinette. Donc ça vous indique la période, hein, la Révolution française, et arrêter un contrôle. Hein. Donc évidemment, il y a beaucoup d'aventures, hein, comme chez Dumas, comme toujours. Et le même jour qu'un événement des personnages, les Girondins sont décrétés d'accusation. Les Girondins, c'est donc le parti révolutionnaire des Girondins, les Jacobins, les Girondins, les Montagnards, etc. Et ils sont décrétés d'accusation, c'est-à-dire qu'ils sont accusés comme anti-révolutionnaires, et il faut les arrêter et les guillotiner. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'autres événements dans le roman de Dumas, mais ça se passe à ce moment-là. Alors, donc, la pièce est jouée en 1947, à partir du 3 août 1947, quelques mois avant, tout à fait en rapport avec Hussonnet. Et on dit que voilà, ce roman et la pièce de théâtre sont écrits, publiés, joués dans un contexte politique bien, bien particulier qui annonce la révolution de 48, donc quelques mois plus tard. Alors Dumas est très engagé dans le sens républicain, bien entendu, et il milite, un peu comme Victor Hugo aussi, hein, pour une transformation de la société, pour un changement de système. Et dans cette pièce de théâtre, les personnages, à la fin, chantent un chant qui a donc été écrit par Alexandre Dumas. Et c'est donc ce chant sorti de la pièce d'Alexandre Dumas qui se trouve repris par le peuple en février et en juin 1848. Donc vous imaginez, hein, une pièce de théâtre qui serait jouée maintenant, dans laquelle il y aurait une sorte de chanson, et tellement populaire que tout le monde l'apprend, et l'année prochaine, il y a une insurrection, et tout le monde chante ça dans la rue. Quelle puissance, hein, pour Dumas, quelle vision, quelle... Bon, tout à fait important. Alors, je vous lis les couplets de cette chanson que vous pouvez trouver dans la fiche du livre, hein, Chevalier de Maison Rouge, sur le site de Dumas. Par la voix du canon d'alarme, la France appelle ses enfants. Allons, dit le soldat, aux armes, c'est ma mère, je la défends. Ma mère, évidemment, c'est ma patrie, hein, c'est mon pays. Mourir pour la patrie, c'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie. Ça, c'est le refrain. Donc, on imagine dans la rue, ils sont fait mourir pour la patrie. Je ne connais pas l'air, hein, je ne sais pas quelle est la musique. Nous, amis qui, loin des batailles, succombons dans l'obscurité, succombons, c'est-à-dire mourons, tombons dans l'obscurité, vouons du moins nos funérailles à la France, à sa liberté. Donc vouer, c'est-à-dire donner, hein, se sacrifier pour la France et pour la liberté de la France et de ses enfants. Et donc Dumas l'avait en quelque sorte pressenti, parce que malgré le titre Chevalier de Maison Rouge, Dumas appelait lui-même sa pièce Les Girondins. C'est-à-dire il était conscient de l'orientation politique qui correspondait au climat de 47-48. Et donc, ça s'est produit comme ça. Alors, voilà donc pour montrer un petit peu, hein, tout ce qui se passe en même temps. En même temps, Flaubert ne nous a pas donné une chronique détaillée de tout ce qui se passe pendant ces journées. On peut imaginer des romanciers qui l'auraient fait. Peut-être que Zola, peut-être que Jules Romain aurait souhaité être très détaillé, très minutieux sur ces événements. Peut-être Jules Vallès aussi, hein, dans ce genre, malgré la participation de personnages bien caractérisés. Mais Flaubert ne le fait pas. Il a plutôt une approche que j'appellerais par ambiance, une ambiance générale, et le personnage passe. Et un peu comme dans les aquarelles, vous savez, on fait un petit peu de décor, un petit détail, et ça permet de saisir, hein, de sentir un élément qui n'est pas le dessin avec toute la perspective détaillée des lieux et des événements. Donc, nous n'avons pas, grâce à Flaubert, le détail des événements. Nous pouvons le chercher ailleurs. On pourrait faire un cours, comme ça, c'est peut-être tout un semestre, hein, pour savoir exactement ce qui se passe ces jours-là. Mais ça ne serait pas rendre service à Flaubert, parce que Flaubert n'a pas souhaité ça. Flaubert a souhaité que nous restions dans une façon de voir un peu impressionniste, aquarelliste, des journées de 48, et que nous restions concentrés, focalisés quand même sur les personnages principaux. Donc, on ne va pas aller vers les détails, et si certains d'entre vous sont intéressés par ces détails de 48, eh bien, vous avez toute la littérature, beaucoup de livres, Gallica, comme je vous disais, et des encyclopédies, et en français, en anglais ou en japonais. En revanche, on pourrait s'intéresser justement à cet aspect un peu ambiance aquarelle de Flaubert et se demander d'où ça vient, d'une part, et d'autre part, qu'est-ce que Flaubert a dit par ailleurs de ses journées de 48, un petit peu quand même en restant près de Flaubert. Alors, à propos de cette vision, elle est quand même clairement semblable à celle du personnage qui s'appelle Fabrice, dans la Chartreuse de Parme, dans le début de la Chartreuse, qui est donc la bataille de Waterloo. Qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre de la bataille de Waterloo ? Le personnage de Stendhal est au milieu de la bataille et il ne comprend rien. Il est simplement un individu avec un point de vue individuel qui n'a pas de vision générale. Et Stendhal, se mettant, si vous voulez, à la place de son personnage, ne nous donne pas de vision générale de Waterloo. Sous-entendu, si vous voulez tous les détails historiques, allez voir des livres spécialisés, il y en a. Alors, cette façon de travailler de Stendhal a été ensuite nommée par des spécialistes de la littérature la focalisation interne. C'est-à-dire, on part du point de vue du personnage pour voir un événement historique. Et c'était relativement nouveau, parce que jusqu'à maintenant, on mettait plutôt séparément le tableau historique et les personnages. Parce qu'il fallait quand même être conséquent, montrer l'histoire. Et Stendhal, un peu comme ça, plus léger en apparence, hein, non, moi, je vois que ce que mon personnage voit. En réalité, c'est pas léger, hein, c'est novateur, c'est révolutionnaire du point de vue de l'écriture. Donc, La Chartreuse de Parme, 1839. Peu de temps d'ailleurs avant la mort de Stendhal, hein, qui est mort en 42. Voilà. Alors, moi j'appelle ça, on parlait de focalisation interne. J'appelle ça aussi immersion. Immersion, c'est comme être dans la mer, on est plongé dans les événements et on ne peut pas avoir de vision générale, on ne peut pas se déplacer directement d'un endroit à un autre pour savoir ce qui s'y passe. On est à un endroit, on a un seul corps, un seul mouvement et on a des sens limités qui nous permettent que de voir une partie des choses. Donc, immersion dans un océan d'événements duquel on ne perçoit qu'une toute petite partie. Alors, c'est Frédéric qui se penche au coin de la rue pour voir la barricade là-bas. Au coin de l'autre rue, il aperçoit la fusillade au boulevard des Capucines. Et puis, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Alors peut-être après, bien sûr, il va le savoir, comme tout le monde. La fusillade des Capucines, juste après ce que je disais tout à l'heure, c'est le moment crucial, le moment où tout change, tourne vraiment, change de sens. On y revient tout de suite. Donc ça, c'était un côté. Donc d'un côté, Flaubert rend hommage à Stendhal, suit Stendhal dans cette direction de la focalisation interne, de l'immersion du personnage, et fait sa bataille de Waterloo sous la forme des journées insurrectionnelles de 48. Ensuite, deuxième chose que je proposais tout à l'heure, qu'est-ce que Flaubert dit de 48 dans sa correspondance ? Là, c'est un autre site internet que je vous renvoie sur le site de l'Université de Rouen où il y a l'équipe Flaubert qui a mis en ligne Madame Bovary, les manuscrits, qui s'occupe également des brouillons de l'éducation sentimentale, je crois, en ce moment. Donc on verra peut-être un jour ça en ligne aussi. Et de la correspondance. Dans la biographie de Flaubert à propos de 48, Flaubert écrit en 1878 à Madame Brenne. Il écrit « L'année 1848 a été la plus belle de ma vie. J'avais une fière gaieté, je vous jure, et un joli tempérament. Bon, ceci dit, c'est écrit 30 ans après, donc peut-être un peu amélioré, enjolivé, comme on dit. Mais rapprochons-nous un peu de ce temps-là. Donc, dans les pages de la correspondance à l'Université de Rouen, il écrivait en 1848, en mars, donc juste après, il écrivait à Louise Collet: vous me demandez mon avis sur tout ce qui vient de s'accomplir. Eh bien, tout cela est fort drôle. Il y a des mines de déconfits, déconfits sont les gens qui ont perdu tout, bien réjouissantes à voir. Hein, donc ça fait plaisir de voir ceux qui ont perdu. Je me délecte profondément, donc je me satisfais, je me plais, dans la contemplation de toutes les ambitions aplaties. Donc des gens qui étaient très ambitieux, étaient aplatis. Je ne sais si la forme nouvelle du gouvernement et l'état social qui en résultera sera favorable à l'art, avec un grand A. Donc quand même un souci de Flaubert qui est du côté de l'art, qui fait penser un petit peu à Pellerin, toujours l'art, l'art, l'art. Bon. Hein? Et il n'a pas dit beaucoup de choses de 48 en 48, justement parce que son ami est mort juste après, et ensuite il a préparé son voyage en Orient. Donc en 48, bon, on n'a pas non plus toutes les lettres, hein, mais il n'y a pas beaucoup de choses disponibles. Ensuite, en 1867, donc c'est déjà beaucoup plus tard, il écrit à sa nièce Caroline. C'est une panique universelle, donc c'est à propos de ce qui se passe en 67. Pour trouver un tel degré de stupidité, il faut remonter jusqu'en 1848. Je lis présentement beaucoup de choses sur cette époque. L'impression de bêtise que j'en retire s'ajoute à celle que me procure l'état contemporain des esprits, de sorte que j'ai sur les épaules des montagnes de crétinisme. Crétinisme, bêtise. Ça, c'est en 67, donc il est en train de préparer avant la rédaction de l'éducation sentimentale. Donc il lit beaucoup de choses sur cette époque. Ça, c'était donc avril 67. On passe à janvier 68. Il écrit à une mademoiselle Leroyer de Chantepie: mon roman est arrivé à la fin de sa seconde partie, mais pour l'avoir entièrement terminé, c'est à peu près au même endroit que nous, hein, dans la lecture, hein, pour l'avoir entièrement terminé, il me faut bien encore 10 mois. J'aborde la révolution de 1848 et, en étudiant cette époque-là, je découvre beaucoup de choses du passé qui expliquent des choses actuelles. Donc, 68. Je crois que l'influence catholique y a été déplorable. Donc, influence catholique mauvaise sur 48. Et ça n'apparaît pas du tout ici, hein, cette chose-là. Donc, on était en janvier 68. Et fin septembre, il écrit à George Sand: je vous ai dit que je ne flattais pas les démocrates dans mon bouquin. Mais je vous réponds que les conservateurs ne sont pas ménagés. J'écris maintenant 3 pages sur les abominations de la garde nationale en juin 48, qui me feront très bien voir des bourgeois. Très bien voir, c'est une antiphrase, hein. Au contraire, les bourgeois vont détester que l'on parle de ça. Il faut cacher ce qui s'est passé en juin. Voilà donc pour ces différents témoignages de Flaubert lui-même sur 1848. Alors, la page 350, on a vu. Donc, on a fini la deuxième partie et je crois que vous comprenez maintenant très bien pourquoi la seconde partie se finit alors que les journées d'insurrection sont déjà commencées. On pourrait penser qu'un romancier va s'arrêter avant et commencer dans la troisième partie. Mais non, il a mis la frontière entre la deuxième et la troisième partie juste après la conquête de Rosanette et la nuit de la fusillade, précisément. Et la troisième partie commence exactement sur cette fusillade. Ce qui veut dire pour Flaubert l'intention de souligner l'importance de cette fusillade comme une coupure historique, un moment de coupure, deuxième partie, troisième partie, dans le roman et peut-être aussi dans l'histoire. Alors, Frédéric est en train de dormir tranquillement, après avoir bien mangé, après avoir fait l'amour avec Rosanette, et d'un seul coup, il est réveillé, comme ça, en pleine nuit, ou assez tôt le matin. Le bruit d'une fusillade le tira brusquement de son sommeil. Et, malgré les instances de Rosanette, Frédéric, à toute force, voulut aller voir ce qui se passait. Il descendait vers les Champs-Élysées, d'où les coups de feu étaient partis. À l'angle de la rue Saint-Honoré, des hommes en blouse le croisèrent en criant « Non, pas par là, au Palais Royal !» Frédéric les suivit, etc. Je passe ce paragraphe, et le paragraphe en bas. « La veille au soir, le spectacle du chariot contenant 5 cadavres recueillis parmi ceux du boulevard des Capucines avait changé les dispositions du peuple. Et, pendant qu'aux Tuileries, les aides de camp se succédaient et que M. Mollet, en train de faire un cabinet nouveau, ne revenait pas et que M. Thiers tâchait d'en composer un autre et que le roi chicanait, hésitait, puis donnait à Bugeaud le commandement général pour l'empêcher de s'en servir, l'insurrection, comme dirigée par un seul bras, s'organisait formidablement. Des hommes d'une éloquence frénétique haranguaient la foule au coin des rues. D'autres dans les églises sonnaient le tocsin à pleine volée. On coulait du plomb, on roulait des cartouches. Les arbres des boulevards, les Vespasiennes, les bancs, les grilles, les becs de gaz, tout fut arraché, renversé. Paris, le matin, était couvert de barricades. La résistance ne dura pas. Partout, la garde nationale s'interposait, si bien qu'à 8 heures, le peuple, de bon gré ou de force, possédait 5 casernes, presque toutes les mairies, les points stratégiques les plus sûrs. D'elle-même, sans secousse, la monarchie se fondait dans une dissolution rapide. Et on attaquait, etc. Donc voilà l'ouverture de cette troisième partie sur des événements historiques très importants qui étaient d'abord juste signalés à la page 351, hein, donc c'était la fin de la deuxième partie, au milieu de la page à peu près, c'était la fusillade du boulevard des Capucines. C'est-à-dire que le « c'était », il vient en quelque sorte du futur. À ce moment-là, on ne sait pas qu'on va nommer cette fusillade la fusillade du boulevard des Capucines. Vous pouvez chercher dans des livres d'histoire, sur Internet, c'est exactement le nom de cet événement historique, la fusillade du boulevard des Capucines. Alors, que dit ou que pense Frédéric ? « Ah, on casse quelques bourgeois, » dit Frédéric tranquillement, car il y a des situations où l'homme le moins cruel est si détaché des autres qu'il verrait périr le genre humain sans un battement de cœur. C'est-à-dire que Frédéric pense tout à fait à autre chose, à ses histoires d'amour, et il voit cette fusillade non pas comme la mort d'homme, mais comme une sorte d'amusement entre des gens, et surtout qui est peut-être dirigé contre des bourgeois. En l'occurrence, ce n'est pas des bourgeois, c'est des gens du peuple qui sont tirés comme des lapins et qui sont abattus. Donc ce que veut dire Flaubert en séparant deuxième et troisième partie, ce que disent tous les témoins de l'époque, c'est que jusqu'au moment de cette fusillade, la situation était sous contrôle, comme la police aime bien dire toujours. La situation est sous contrôle et, bon, il y avait des mouvements, mais le roi, le gouvernement allait arranger ça. Or, cette fusillade, qui est arrivée un peu par hasard, hein, ce qu'on dit, c'est que un homme est venu avec une torche, il s'est trop approché des militaires, et les militaires ont eu peur, et soit on a donné l'ordre, soit on n'a pas donné l'ordre, mais ils ont tiré sur le peuple. Et d'un seul coup, des gens sont tombés, sont morts, de façon tout à fait injuste, vraiment pas raisonnable. Donc c'est la peur des soldats qui a déclenché ce massacre. Et ça arrive souvent. Même maintenant, quand on parle des problèmes en Afghanistan, d'un seul coup plein de gens sont tués, ben, on ne sait pas très bien pourquoi ni comment. Mais souvent c'est la peur des soldats qui déclenche quelque chose. Ça, bon, tant pis. Tant pis, mais c'est pas tant pis. Justement, on dit tant pis, mais on peut pas. Il y a des morts, et c'est grave. Alors bon, aujourd'hui, c'est tout à fait différent de cette époque. Mais quand même, le peuple a été choqué de ce comportement, et ensuite on a pris les cadavres qu'on a mis dans un chariot, et qu'on a déplacés dans Paris pendant une partie de la nuit. Et donc, beaucoup de gens ont vu, hein, sans doute accompagné de messages sur comment ça s'est passé. Et donc, au matin, l'énergie du peuple était autrement dirigée et autrement forte. Et là, le système donc est tombé. Le système, hein, c'était un mot de l'époque. On voulait changer de système. Bon, c'est système de gouvernement, c'est-à-dire passer du roi non pas à un autre roi, parce qu'en 1830, ça a été raté, il y avait un soulèvement, il y avait une révolution, mais on a dit, bon, on va changer un roi, on va mettre un autre roi, vous allez voir, ça va être mieux. Bon, finalement, ça ne marchait pas. Donc en 48, on dit, non, 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 pas un autre roi, c'est un autre système que l'on veut. Alors vous voyez, entre 48 et 51, on va changer deux fois de système. Roi, république, empereur. Bon, c'est un peu la répétition d'ailleurs de ce qui s'était fait en 89, 93 et 1800, etc. Bien, on peut revenir à notre troisième partie. Alors, Frédéric va se promener une bonne partie de la journée qui est donc maintenant le 24 février. Le 24 février, qui est le jour de la démission, du départ du roi, et qui sera remplacé par une régence. Alors pour Flaubert, il y a deux phrases importantes dans cette page 356 que j'ai lue. D'abord à la troisième, quatrième ligne, à propos de l'insurrection. L'insurrection, comme dirigée par un seul bras, s'organisait formidablement. Donc l'insurrection s'organisait d'une façon extraordinaire. Mais le mot le plus important, c'est le mot « comme ». Parce que l'organisation, l'insurrection, n'est pas dirigée. C'est comme si elle était dirigée. Donc les choses se passent d'une façon extraordinaire, vont toutes dans le même sens qui donne un pouvoir important au peuple, comme s'il était commandé par un seul bras. Mais la réalité, c'est qu'il n'est pas commandé par un seul bras. Donc le mot important, c'est bien le mot « comme ». « Comme », ça ressemble, mais ça n'est pas un seul bras. Ce qui est suivi d'ailleurs, pour renforcer en quelque sorte ce « comme », par une succession de points-virgules. Vous voyez dans le paragraphe qui suit, des points-virgules, les uns sous les autres presque, pour montrer ce qui se passe ici, là, ailleurs, de façon presque désorganisée, mais dont l'ensemble correspond à l'action d'un seul bras, l'ensemble qu'on pourrait appeler la résultante, comme on dit en mathématiques, hein, ou en calcul de physique, vous avez une force qui s'exerce comme ça, une autre comme ça, une autre comme ça, une autre comme ça. Il y a beaucoup de forces dans tous les sens, et si on calcule le résultat de tout l'ensemble, vous avez une seule grande force qui s'organise dans un sens. Et donc, qui n'est pas voulu, qui n'est pas organisé, mais dont le résultat est précisément ceci. Et donc la deuxième phrase importante, c'est presque au milieu de la page 356, où je me suis arrêté tout à l'heure de lire. D'elle-même, sans secousse, la monarchie se fondait dans une dissolution rapide. Alors ici, le mot important, c'est peut-être d'elle-même. Hein, c'est-à-dire, la monarchie, le système disparaît, se dissout comme du sucre dans de l'eau, ça n'est pas planifié, ça n'est pas préparé, ça n'est pas voulu par telle ou telle personne. C'est comme si la monarchie d'elle-même, exerçait cette force sur elle-même de disparition. Ce qui revient évidemment à l'expression « la poire est mûre ». C'est l'idée de la maturité, du moment historique ou encore du kairos. Alors, dans les pages qui suivent, Frédéric va se promener dans les rues et être témoin. Alors, cette notion de témoin, c'est peut-être l'expérience de Flaubert lui-même, et on peut la trouver chez beaucoup d'autres témoins, dans la littérature, dans la peinture, dans d'autres arts qui ont pu être exprimés, et puis bien sûr du côté des historiens, des mémorialistes, des hommes politiques qui ont écrit des mémoires. Donc il y a beaucoup de choses à lire pour toutes les personnes intéressées. On peut signaler également qu'un volume de Victor Hugo intitulé « Choses vues » contient beaucoup de petits paragraphes justement consacrés à 1848. Donc, si vous avez quelques loisirs pendant les vacances d'hiver, vous pouvez aussi lire Victor Hugo, Choses vues, pour vous situer dans cet océan d'événements. On ne va pas prendre en détail les scènes, mais ce qui apparaît généralement dans cette promenade de Frédéric dans Paris pendant cette journée, c'est la notion presque d'une part d'amusement que Frédéric ressent et deuxièmement l'absence de réalité. D'ailleurs, ça va un petit peu ensemble. Hein. Il est très enthousiaste, il s'amuse beaucoup et trouve très très bien. Et cependant, on tire au fusil de partout. Donc, à côté de Frédéric, il y a des balles qui passent, il y a des gens qui tombent, et lui, il a l'impression de s'amuser. Je ne sais pas si c'est très réaliste, hein, ça. Bon. Et il dit aussi l'odeur hein, de la poudre, c'est une sorte d'excitant. Bon, je ne sais pas, moi, je n'ai pas encore eu l'occasion. Je ne peux pas vous dire l'effet que ça produit. S'il y a quelqu'un parmi vous qui a déjà participé à des révoltes ou à des insurrections, ça dépend sans doute des personnes. Hein. On voit que Rosanette est terrorisée, sans doute beaucoup de gens se sont enfermés chez eux, et puis on voit comme cet homme, là, en haut de la page 357, un homme dans la rue, n'importe qui, « Mais reviens donc, laisse-moi tranquille, » répondait le mari, « Tu peux bien surveiller la loge toute seule, » c'est un gardien d'immeuble, hein. « Citoyen, je vous le demande, » il parle à Frédéric, « Citoyen, je vous le demande, est-ce juste ? J'ai fait mon devoir partout, en 1830, en 32, en 34, en 39, des événements, des guerres, etc. Aujourd'hui, on se bat, il faut que je me batte. Va-t'en. Il faut que je me batte, c'est-à-dire, il n'y a pas de réflexion. Hein. Je fais partie du peuple, je me bats avec le peuple. C'est une sorte de solidarité naturelle du peuple. Donc cette solidarité du peuple plus la fraternisation, les fraternisations avec des militaires vont complètement modifier hein, cette situation que le gouvernement pensait contrôler. Donc faites bien la différence et associez-les ensemble, hein, la fraternité et la solidarité, hein, comme deux choses bien différentes. Au milieu de la page 357, Frédéric, pris entre deux masses profondes, ne bougeait pas, fasciné d'ailleurs et s'amusant extrêmement, avec cette habitude de Flaubert, hein, de nous mettre un adverbe long à la fin d'une phrase. Hein, tout à l'heure, on a vu, en haut de la page 356, s'organisait formidablement, point, et puis maintenant, page 357, s'amusant extrêmement, point. Ça a été beaucoup reproché à Flaubert, hein, des grammairiens, des stylisticiens. Ah, Flaubert, il est lourd avec ses adverbes comme ça, à la fin des phrases. Mais aujourd'hui, on pense que c'est génial. Dire oui, oh, comment ça bascule, hein, le sens de la phrase, comme ça bascule d'un seul coup, un poids. Eh oui, mais au sens positif. Et alors, donc, cette sensation de déréalisation, absence de réalité, juste après, extrêmement, les blessés qui tombaient, les morts étendus, n'avaient pas l'air de vrais blessés, de vrais morts. Il lui semblait assister à un spectacle. Ensuite, eh bien, des déplacements, des événements... jusqu'à la page 358, la même sensation, hein, de Frédéric est toujours des points virgules en haut de la page, à partir de la cinquième ligne. De toutes les fenêtres de la place, on tirait, les balles sifflaient, l'eau de la fontaine crevait, se mêlait avec le sang. Faisait des flaques par terre, on glissait dans la boue sur des vêtements, des shakos, des armes. Frédéric sentit sous son pied quelque chose de mou. C'était la main d'un sergent en capote grise, couché la face dans le ruisseau. Cette sensation donc tout à fait présente. Et en même temps l'amusement, qui n'est pas que l'amusement de Frédéric, qui est une sorte d'amusement général, et donc juste après... Des bandes nouvelles de peuple arrivaient toujours, poussant les combattants sur le poste. La fusillade devenait plus pressée. Les marchands de vin étaient ouverts. On allait de temps en temps y fumer une pipe, boire une chope, puis on retournait se battre. Bon, c'est tout à fait extraordinaire. On a l'impression que c'est une invention. Mais les témoins sont bien d'accord. Les restaurants, les cafés, les échoppes étaient partiellement ouverts. Pas tous. Mais on peut imaginer que dans une ville comme ça, en état d'insurrection, tous les commerces seraient fermés. Hein, aujourd'hui, bon, les fenêtres de fer, les rideaux de fer, pardon, descendus, eh bien là, non, vous voyez, qui ouvrent, alors on va boire un coup, on va fumer une pipe, et on retourne se battre. Tout à fait étonnant comme ambiance. Hein. Et on arrive à midi, quand même, Frédéric est choqué parce qu'il voit un homme... qui a reçu une balle qui lui tombe dessus, hein, et il pense que peut-être cette balle était pour lui, ou si cet homme n'avait pas été là, c'est lui, Frédéric, qui aurait reçu cette balle. Donc, un petit peu choquant tout de même. Il allait dans un sens, et quelqu'un lui dit « C'est inutile, le roi vient de partir. Ah, si vous ne me croyez pas, allez-y voir. » Alors, on sait que, historiquement, c'est à peu près vers midi. Le roi est parti, s'est enfui. Et on arrive à la page suivante, 359. Jusqu'à maintenant, Frédéric se promène seul. On peut dire qu'il se promène, il erre d'endroit en endroit, simplement pour être témoin. Il ne prend pas d'armes, il ne se bat pas spécialement. Et à la page 359, il rencontre Hussonnet. Tiens, Hussonnet, alors après le premier paragraphe. « Mais oui, répondit le bohème, je m'introduis à la cour. » Voilà une bonne farce, hein ?« Je m'introduis à la cour », qui était à prendre dans un sens ironique, parce qu'au sens propre, quand la cour existait, c'est très difficile de s'y introduire. Il faut être connu, de telle famille, etc. Et là, on peut entrer tranquillement. On entre partout, dans les palais, le peuple entre, détruit, saccage, vol, pille, incendie, salit. C'est principalement, ce sera la vision de Hussonnet, c'est-à-dire une vision négative, une vision basse du peuple, qui est sans doute vraie. Le peuple se comporte d'une façon tout à fait sale, basse, vulgaire, en cassant, en massacrant, en pillant. Et Ussonnet l'exprime à la page 360 sous la forme concentrée, disons, de « les héros ne sentent pas bon ». Les héros ne sentent pas bon, on pourrait prendre ça comme titre d'un livre, hein. C'est très beau comme phrase. Les héros, ils sentent la poudre, le sang, la saleté parce qu'ils se lavent pas, etc., etc. Donc les héros ne sentent pas bon. Et réponse de Frédéric, qui prend plutôt la défense du peuple. Ah, vous êtes agaçant. Alors Ussonnet va continuer comme ça entre les deux. C'est-à-dire, après avoir montré un Frédéric simplement témoin d'événements, sans sentiment à peu près, nous avons maintenant, grâce à la coprésence Ussonnet-Frédéric, un double système d'interprétation, positif, négatif. Interprétation négative, c'est Ussonnet qui joue le rôle, interprétation plutôt positive, disons favorable au peuple, c'est Frédéric qui prend le rôle à son tour. Donc Flaubert, grâce à la présence, on pourrait dire, dialectique, hein, parce qu'il y a deux personnes, donc c'est dialectique, de deux personnages, il peut nous donner un avis contrasté, contraste entre les deux, alors qu'avant, Frédéric tout seul ne peut qu'être témoin de choses qu'il n'arrive pas à considérer, qu'il n'arrive pas à juger. Peut-être l'idée aussi pour Flaubert que un homme au milieu des événements ne peut pas les juger. Mais dès qu'il est avec un autre, il est obligé d'exprimer une opinion, de prendre un côté, de prendre un parti avec ou contre l'autre. Et ce serait un peu comme une activité naturelle des êtres humains. Tout seul dans la tempête, on ne comprend rien, on n'est que témoin. Et dès qu'on est deux, il y a une dialectique, il y a une opinion, il y a une communication, conversation, façon de voir les choses. Alors, en fait, cette scène qui se joue maintenant, on va pouvoir s'arrêter d'ailleurs très bientôt, ne fait que rejouer pour la deuxième fois une scène du début du roman, qui était la rencontre avec Ussonnet, par hasard dans la rue, devant une manifestation d'étudiants, on l'a vu à la deuxième séance, je crois, et le même jour, avec Ussonnet que l'on vient de rencontrer, la découverte de Dussardier qui est, lui, complètement engagé dans le combat. Et c'est exactement la même chose qui se répète. Frédéric et Ussonnet sont deux témoins, avec leurs avis différents. Ils sont, disons, tous les deux dans le monde de la parole, l'un avocat, l'autre ayant fait son droit. Ils sont dans le monde de la parole, de l'expression, de l'écriture, de l'art, etc. Peut-être de la domination. Et de l'autre côté, Dussardier, qui lui est toujours du côté de l'action. Alors, avec ses convictions, hein, c'est pas un animal qui saute sur un autre, hein. Mais déjà dans la révolte des étudiants, il n'était pas d'accord parce que un policier avait fait tomber quelqu'un. Donc il est intervenu par humanisme, par solidarité entre deux personnes du peuple. Eh bien, on va voir maintenant Dussardier, qui est déjà engagé depuis 48 heures dans les événements, qui est blessé, qui court partout. Et exactement la même scène que l'autre fois, simplement les événements sont beaucoup plus importants, démultipliés, plutôt multipliés dans ce sens. Donc voilà pourquoi Flaubert nous a fait connaître ces deux personnages de cette façon. Frédéric a rencontré Ussonnet et Dussardier, pour qu'on voit bien la différence entre les deux, et cette différence se reproduit exactement dans un événement plus gros. Alors on pourrait dire en quelque sorte que la rencontre, la première scène entre les personnages est une sorte de mise en abîme de ce qui va se développer par la suite dans les événements historiques beaucoup plus importants. Voilà. Alors, mise en abîme, qui est donc une figure de style, si on veut, une figure de construction, hein, d'histoire, où on a un événement, disons, très réduit, qui représente, qui reprend la structure d'un événement plus grand, plus important. Alors, la mise en abîme peut être avant, après, placée de façon différente, mais on voit bien le rapport d'échelle. Hein, on a Ussonnet et Dussardier devant une petite manifestation, et on voit comment ils se comportent, comment ils sont humainement. Eh bien, cette petite aventure, ce petit incident, va se reproduire à l'identique, mais à une autre échelle, plus importante, au milieu des journées de février 48. Voilà, on peut s'arrêter ici. J'essaierai de faire la semaine prochaine la relation, le collage entre différents passages. Et pour la semaine prochaine, je vous propose trois tranches à préparer. Des pages 473, 443, 433, 440 et 455, 469. Voilà, vous verrez ces événements à peu près bien identifiés. Et ça doit correspondre à des chapitres 2, 3, 4 de la troisième partie dans lesquels nous pouvons prendre quelques événements. Voilà. Pardon pour le retard qu'on a pris sur le texte, mais je crois qu'il y a tellement de choses avec 1848 que c'est inévitable. Hein. Au revoir, à la semaine prochaine.